Lulith, Martine et les autres vous présentent la trilogie I comme international. Culture de résistance dans les pays en I. Le 2 octobre, l'Inde, le féminisme dans une société de caste. Le 16 octobre, l'Irlande, du côté des indépendantistes. Le 27 novembre, l'Italie, ses chants populaires, révolutionnaires et féministes. I comme international, culture de résistance dans les pays en I. Une trilogie par Lily, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2.
Cet été, une Illithienne est partie dans une contrée lointaine, une contrée tellement verte que son œil en a été ébloui. Elle a gravi des collines, compté des centaines de moutons avant de s'endormir, bu un maximum de bière, certes.
Mais comme cette Illithienne aime l'histoire, elle est allée voir du côté du nord de cette contrée et elle a creusé pour connaître et comprendre. Elle s'est posé des questions. C'est quoi les troubles ?
Qui appelle-t-on les protestantes, les catholiques, les unionistes ou encore les républicaines ?
Pourquoi y a-t-il à Belfast ou à Derry des murs, des barbelés et des caméras enfermées dans ces grillages ?
Pourquoi dans certains quartiers, à chaque coin de rue, voit-on des peintures qui représentent parfois des hommes en armes, parfois des habitantes endeuillées ou encore des symboles de lutte indépendantiste du monde entier ?
Toutes ces découvertes qui l'ont intéressée, choquée, émue et bouleversée, alors, forcément, elle nous les a proposées d'y consacrer une émission.
Aujourd'hui, Lilith revient sur le conflit nord-irlandais et vous propose un historique de la lutte indépendantiste en Irlande, un témoignage d'enfants de ce conflit et une photo de Belfast au début des années 2000. Tout cela saupoudré de musique irlandaise, bien entendu.
Ainsi commence le deuxième volet de notre trilogie I comme international sur l'Irlande. Alors, dis-nous comment tout a commencé.
Alors, l'invasion de l'Irlande et la conquête anglo-normande de ce territoire commencent dès le XIIe siècle. Mais la mainmise de l'Angleterre se précise au XVe siècle sous le règne d'Henri VII, qui subordonne vraiment la législation irlandaise à la couronne anglaise.
Et alors, l'Irlande, c'était une colonie ?
En fait, c'est devenu une colonie avec tous les éléments qui caractérisent le processus de colonisation. Donc déjà, il y a eu la confiscation des terres aux Irlandais pour les donner à des grands propriétaires anglais ou parfois des petits propriétaires écossais. C'est ce qu'on a appelé les plantations. Et il y a des mesures discriminatoires contre les catholiques, avec notamment la suppression du droit de vote et leur exclusion de certaines professions. On leur interdit de porter une épée ou d'avoir un cheval de plus de 5 livres, je crois, si c'est possible. Et encore de posséder des terres qui ont appartenu à des protestants. Et puis, une installation progressive quand même d'une lutte acharnée contre la langue et la culture gaélique. En fait, je fais un petit saut dans le temps, mais le Parlement de Dublin, il est supprimé en 1800. Et donc là, l'Irlande, elle est complètement intégrée au système politique anglais, qui est dominé par Londres. Et c'est ce qu'on appelle l'acte d'union, qui a donné lieu au vocable unioniste, que vous entendrez à plusieurs reprises dans cette émission, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de vocabulaire à maîtriser quand on parle du conflit en Irlande. En fait, un exemple très parlant de la colonisation britannique en Irlande, c'est la plantation de l'Ulster, donc c'est la région nord-irlandaise qui correspond en partie à l'Irlande du Nord d'aujourd'hui. C'est un peu difficile de résumer un processus de colonisation qui s'est étalé sur plusieurs siècles, mais en revanche, c'est intéressant de constater que les représentations racistes existaient bel et bien, et existent probablement toujours, sur les Irlandais catholiques, qui étaient considérés comme bêtes, laids, sauvages par les colons anglais. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le racisme d'aujourd'hui, parce qu'on a beau nous dire que, en tout cas, les racistes qui se défendent d'être racistes, ils culturalisent souvent leur racisme, en fait, en disant c'est parce que les gens ils sont différents, que leur religion elle est loin de la nôtre. Mais on voit que à l'époque, il s'agissait bien de blancs qui avaient une religion quand même relativement proche des protestants. Et pour autant, le pouvoir colonial, il s'imposait comme un pouvoir raciste qui infériorisait les Irlandais à l'époque.
Et les nationalistes, c'est qui alors ?
Alors avant le 19e, en fait, la résistance au pouvoir de Londres, elle est plutôt menée par les colons anglo-irlandais protestants locaux qui veulent garder du pouvoir et qui veulent garder leur autonomie sur le territoire irlandais. Donc c'est comme des petits seigneurs, en fait, qui veulent s'imposer et qui veulent pas que la couronne britannique leur donne trop d'ordre. Mais après, il y a des tentatives de résistance un peu mixtes. Donc quand on dit mixte, il y a plusieurs vocabulaires, on peut utiliser plusieurs vocabulaires, mais on peut dire, pour aller vite, protestants issus des colons et catholiques. Mais ces tentatives, elles ne durent pas bien longtemps. Et en parallèle, au début du 19e, il y a vraiment le mouvement nationaliste irlandais catholique qui se structure. Et on peut dire que c'est la Grande Famine, donc c'est en 1845, qui accroît vraiment les tensions définitivement entre les deux communautés. En fait, il y a plus d'un million d'Irlandais qui meurent de faim. Et pendant ce temps-là, il y a des cargaisons de denrées alimentaires qui proviennent de l'Irlande, qui continuent d'être exportées vers l'Angleterre. Donc c'est un véritable pillage de l'Irlande. En fait, au tout début, les leaders nationalistes, ils envisagent une autonomie relative vis-à-vis de la couronne britannique. Mais au début du 19e, il y a un vrai mouvement indépendantiste qui naît et qui se structure et qui souhaite une république irlandaise. Donc la date très connue, c'est 1916, c'est l'insurrection de Pâques, où les indépendantistes y prennent la grande poste de Dublin et ils y décrètent la République d'Irlande. C'est une date qui est encore commémorée aujourd'hui.
Et l'IRA, c'est quoi alors ?
Alors l'IRA, donc, c'est l'Irish Republican Army. C'est une armée qui lutte pour l'indépendance irlandaise pendant la guerre d'indépendance entre 1919 et 1921. Et en fait, après, elle subit une série de scissions. Donc la première scission, c'est vraiment en 21, quand il y a la signature du traité qui acte d'un côté la République de l'Irlande libre, donc c'est l'Irlande du Sud, quoi, l'EIR, qu'on appelle l'EIR, E-I-R-E, et l'Irlande du Nord, qui reste rattachée à la couronne britannique. Et en fait, il y a une partie de l'IRA, donc, qui avait lutté pour l'indépendance de l'Irlande, qui accepte ce traité, et une partie qui refuse ce traité, donc il y a une scission à ce moment-là. Et après, il y a toute une série de scissions qui sont toujours liées un peu au même processus. C'est-à-dire une partie, dès qu'il y a des propositions de traité, de paix ou bien de cesser le feu au cours de l'histoire, une partie de l'IRA qui accepte et une partie de l'IRA qui veut continuer la lutte armée et surtout qui veut continuer à la lutte pour rassembler les deux Irlandes, en fait. Donc après, l'IRA qu'on connaît le plus, dont on a le plus entendu parler dans les films, dans l'histoire des troubles, en fait, c'est l'IRA provisoire. Donc c'est bizarre parce que c'est pas l'IRA provisoire, mais c'est l'IRA la plus connue. C'est celle, en fait, qui continue la lutte armée après 69, justement, et qui est à l'œuvre vraiment dans la période des troubles qui dure de 69 à 97. Mais du coup, avant de poursuivre là-dessus, on va peut-être écouter une petite musique. C'est The Ballad of Mairead Farrell de Rachel Fitzgerald.
Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. Do not stand at my grave and cry when I.
Expliquer c'est quoi ce qu'on appelle les troubles.
J'avais une blague, je l'ai loupée. Pas les troubles de Lilith, Martine et les autres, hein, mais en Irlande.
Ah oui, il y en a. Ah. Un, je veux dire. Alors les troubles, eh ben, c'est un mot, c'est un peu comme quand on parlait des événements en Algérie, en fait. C'est un mot pour pas dire la guerre. En fait, en 69, il y a encore des grandes discriminations qui continuent de toucher les catholiques en Irlande du Nord. Je vais en donner quelques exemples. Donc, jusqu'en 70, pour les élections locales, c'est-à-dire les élections du Parlement d'Irlande du Nord, avaient le droit de vote seuls les propriétaires d'entreprises et leurs épouses. Ce qui veut dire que les femmes n'étaient pas propriétaires d'entreprise, vous aurez noté.
Mais qu'elles ont le droit de vote.
En combien ? Donc ça, jusqu'en 70.
Ok.
Et par exemple à Derry, donc Derry qui est la, donc la deuxième ville d'Irlande du Nord, qui s'appelle aussi Londonderry pour les Anglais, hein, deux noms, c'est ça qui est intéressant, Derry pour les Irlandais catholiques et Londonderry pour les Anglais protestants. 10 000 catholiques ne sont représentés que par 8 sièges au conseil municipal, alors que 7 500 protestants en possèdent 12. Donc c'est un suffrage censitaire, quoi, si vous voulez. Sinon, l'accès.
Le suffrage censitaire, ça peut être pas mal d'expliquer.
Ouais, suffrage censitaire, ça veut dire que c'est un suffrage discriminatoire, quoi. C'est pas un suffrage universel avec une personne, une voix.
Discriminatoire sur l'argent, quoi.
Ouais, ouais, voilà, ouais. Sur le fait d'être propriétaire, en fait. Après, l'accès au logement et à l'emploi sont restreints pour les catholiques. Donc, il y a vraiment des mesures très concrètes. Par exemple, les logements sociaux, eh ben, en priorité, ont droit les protestants. Et après, il y a les discriminations classiques qui sont plus informelles, mais que quand quelqu'un a un nom catholique, eh ben, il va moins facilement accéder à l'emploi ou au logement, bah, comme ça peut être le cas encore aujourd'hui sur des trucs racistes plus informels, quoi. Sinon, ils sont fortement victimes, les Irlandais catholiques, de violences policières, parce que la RUC, donc la RUC, c'est la Royal Ulster Constabulary, donc c'est la police d'Irlande du Nord, est composée à 90% de protestants. Et les brigades qui sont associées, donc là j'ai plus le nom en tête, c'est 100% de protestants. Donc autant dire que comme il y a un racisme fort entre les deux communautés, et ben, ils s'en donnent à cœur joie. Alors je parle souvent de protestants et catholiques, on est d'accord que c'est pas, c'est plutôt pour caractériser les populations et leur, d'où ils descendent et d'où ils viennent, mais c'est pas tant pour parler de leur religion, parce qu'on voit que dans les catholiques, après militants, en fait, il y en a plein qui se disent athées. Quoi, c'est pas vraiment par rapport à une croyance religieuse, en fait. Et donc à partir de ça, de 68, il se crée la NICRA, donc c'est l'Association pour les droits civiques en Irlande du Nord, qui se bat pas tellement pour l'indépendance de l'Irlande et le rattachement de l'Irlande du Nord à la République irlandaise, mais surtout qui se bat pour que tout le monde ait les mêmes droits. C'est un peu le modèle des mouvements pour les droits des Noirs américains, en fait, qui a inspiré cette association. Et elle organise, par exemple, des marches pacifiques. Et donc, il y a une première marche qui est un véritable succès le 5 octobre 68. Et du coup, le gouvernement, il flippe un petit peu. Donc, il interdit la deuxième marche à Derry. Mais les organisateurs, organisatrices marchent quand même. Et la police charge, il y a 77 blessés. Donc, en fait, c'est un peu le début du conflit super violent, on peut dire d'une guerre. Alors, c'est une guerre qui se situe à plein de niveaux, puisque c'est entre les quartiers républicains. D'un côté, donc, quand on parle de républicains, c'est vraiment ceux qui souhaitent la République irlandaise, et donc qui sont plutôt catholiques. Et les quartiers, alors on peut les appeler de plusieurs manières, loyalistes, donc loyalistes, ça veut dire fidèles à la couronne britannique, ou unionistes, qui souhaitent rester rattachés à l'Union, quoi, au Royaume-Uni. Et donc c'est entre quartiers, donc à la fois entre personnes, entre gens, quoi, entre divers groupes armés. Donc on peut citer bah, l'IRA, dont j'ai déjà parlé, et l'INLA, par exemple, du côté irlandais républicain. Et puis l'UVF, côté loyaliste, donc qui est le groupe armé le plus connu, mais il y en a plusieurs. Donc c'est l'Ulster Volunteer Force. Et en fait, tout le monde est touché par cette guerre. Donc en 69-70, il y a une série de manifestations, d'émeutes qui ont lieu. Parmi elles, il y a la bataille du Bogside, à Derry, qui voit la naissance de Free Derry. Donc en fait, c'est-à-dire que le Bogside, c'est le quartier catholique qui est juste derrière le rempart de la ville de Derry. Et en fait, Free Derry, ça devient une véritable ville à part entière qui est gérée par le comité de défense locale, des habitants, quoi. Et donc, bah, ce qui est une des manifestations très qui a fait parler d'elle, c'est le 30 janvier 72, c'est le Bloody Sunday. Donc c'est toujours dans ce même quartier du Bogside à Derry. En fait, c'est une marche civique pour le coup, là, pour les droits. Donc il se fait réprimer dans le sang, c'est pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler. Et dans le même temps, là je reviens un petit peu en arrière, toujours en 70, à Belfast, on assiste vraiment à des pogroms d'extrémistes protestants contre les quartiers catholiques. Donc il y a vraiment des quartiers qui sont assiégés en fait. Donc c'est des manifs voilà, violentes et tout ça. Et en fait, dans un premier temps, l'armée britannique, elle n'est pas vraiment impliquée là-dedans. Et même les catholiques, ils souhaiteraient presque qu'ils interviennent parce qu'ils se font un peu laminer par les protestants et par les groupes paramilitaires protestants. Et du coup, ils attendent presque en fait, l'intervention de l'armée britannique. Mais en fait, en juillet 70, la situation se retourne parce qu'il y a l'armée qui fait vraiment l'assaut d'un quartier de Belfast qui s'appelle Falls Road. Et donc, il y a des violentes émeutes et il y a 5 morts. Et donc là, il y a un peu un retournement de situation. En fait, les catholiques ou les républicains, ou quel que soit le mot qu'on choisit, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vraiment compter sur l'armée pour assurer leur protection et ils se tournent pas mal vers l'IRA. Donc, il va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, en fait, si on résume, quoi, c'est difficile à résumer, mais pour l'IRA, il y a un peu deux volets à l'action. Il y a la défense des quartiers contre les groupes protestants loyalistes, puis la défense des habitants d'une manière générale et un peu l'organisation de la solidarité en fait, entre habitants. La défense aussi des quartiers contre la police, qui est quand même assez violente. Et puis, y a le volet qu'on connaît, hein, que des attentats, quoi, des attentats à la bombe. Et puis, après, il y a la guerre, elle a un niveau politique. C'est aussi, là je saute un petit peu dans le temps, mais c'est aussi beaucoup d'internements de force, sans jugement de prisonniers. Et puis la décision en 76 de supprimer le statut des prisonniers politiques, qui sont dits terroristes. Donc on en a beaucoup parlé parce qu'on connaît la grève de la faim de 81, où il y a eu 10 détenus qui étaient en grève de la faim qui sont décédés. Donc la grève, c'est la grève de la faim et la grève de l'hygiène. Bon, je pense que ça, il y a pas mal de personnes qui connaissent. Il y a eu aussi un film qui est sorti là-dessus qui s'appelle Hunger. Et en fait, mais il faut savoir quand même que la décision de supprimer le statut de prisonnier politique aux dits terroristes, quoi, ceux qui étaient considérés comme terroristes, ça s'applique aussi bien aux groupes tel l'IRA qu'au groupe côté protestant en fait. Donc il y a les mêmes histoires, il y a des histoires similaires de groupes protestants, sauf que c'est dans des proportions bien moindres. Donc voilà en gros un peu un état des lieux, et en fait les troubles ça continue comme ça jusqu'en fin des années 90, et là il y a un accord de paix qui calme quand même pas mal les choses, mais il y a tout le temps des résurgences de ce conflit. Et donc, c'est ce qu'on va un peu écouter tout à l'heure, hein, avec le témoignage d'une copine qui habitait là-bas dans le début des années 2000. Mais même moi, j'y étais cet été et je trouvais que c'était encore très, très, très présent, très visible, quoi, les traces du conflit.
Et par exemple, donc, à Derry, il y a toujours Free Derry ou ça n'existe plus
c'est... Et à Derry, il y a toujours Free Derry, sauf que ce n'est pas vraiment géré par les habitants comme ça l'était, je pense, à l'époque. Mais par contre, c'est... Il y a toujours le mur avec marqué Free Derry d'un côté, il y a toujours du côté protestant le mur avec marqué No Surrender, ça veut dire on se rendra pas. En fait, bon, c'est une référence au siège de la ville qui avait eu lieu genre au 15e siècle, où la ville, les protestants de la ville avaient sauvé la ville. Et du coup, toutes ces références-là, elles sont encore très très présentes. Par exemple, quand j'y étais, il y avait un feu, les enfants, donc côté protestant, j'ai vu des enfants de 8 ans. Qui brûle des. C'est l'anniversaire du siège de la ville, en fait, donc c'est une référence historique. Et notamment, ils brûlent, par exemple, les portraits des grévistes de la faim de 81. Donc c'est quand même assez violent, quoi.
Putain.
Voilà.
Et du coup, est-ce que c'est comme dans pas mal de conflits entre communautés ou ethnies où il y a beaucoup de mythologie, en fait, justement, comme ça, on revient à des sièges de la ville qui sont au 15e siècle et que ça s'appuie, en fait, sur des événements qui sont historiquement vachement datés pour justifier des conflits présents. Et, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une grande place à cette mythologie-là ou...
En fait, ce qui est super impressionnant, c'est que les peintures murales, donc les murals, il y en a beaucoup des deux côtés, côté quartier protestant et côté quartier catholique. Mais c'est vrai, on peut pas s'empêcher. Même moi, je suis arrivée, je connaissais pas très bien l'histoire. Bon, j'ai une sensibilité politique plus proche de l'IRA ou des républicains que des protestants fidèles à la couronne britannique, mais après je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et en fait c'est que toute la mythologie elle est vraiment mise en œuvre beaucoup plus côté protestant, où c'est des murals avec des hommes armés, des grands hommes de l'armée anglaise qui sont intervenus lors de tels conflits à tel moment, le siège, des références voilà aux années 1600-1700. Et côté catholique c'est beaucoup un peu des gens qui sont morts pendant le conflit, en fait, des hommages. Et puis beaucoup de choses sur la solidarité internationale. Donc il y a beaucoup de choses sur les Basques, les Kurdes. C'est quand même des murals plus politiques, de sensibilité de gauche, puis des soutiens aux prisonniers, enfin aux prisonnières de la guerre, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes symboles qui sont mobilisés des deux côtés. Et c'est très choquant côté protestant, quand même.
Et aujourd'hui, l'IRA, ils ont encore une activité, des gens emprisonnés
Alors l'IRA en tant que tel, il y en a qui existent toujours, mais je crois que c'est très très marginal, parce qu'il y a encore une énième scission en 2006. Mais par contre, l'activité vraiment de soutien aux prisonniers, c'est plutôt des associations de civils, et ça c'est très très fort encore, ouais.
D'ailleurs, il y a beaucoup de tags dans les rues, c'est vraiment des choses actuelles en fait.
Est-ce qu'il y a encore donc des gens, des prisonniers politiques ?
Bah, alors, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même au cours des traités de paix qui ont été relâchés. Mmh. Mais après, selon les affaires, je pense qu'il y a encore des gens en prison, ça je connais pas très bien. Mmh. Mais en tout cas, et surtout la lutte, elle s'axe beaucoup sur le soutien aux familles de victimes de la police en fait. C'est beaucoup ça les luttes actuelles, où sont investies d'ailleurs pas mal de femmes. Bizarrement.
Et c'est. Moi, j'ai pas très bien entendu en fait l'IRA et un peu la lutte sur quelle base politique elles étaient.
Bah, du coup, l'IRA, c'est quand même très marqué socialiste, quoi, au début. Enfin, au tout début, non. Au tout début, c'est vraiment le volet nationaliste. Puis après, petit à petit, quand même, ça devient très marqué aussi par la lutte classe ouvrière, quand même. Donc, il y a un peu une jonction entre les deux. Ça dépend des périodes de l'IRA, je ne suis pas spécialiste de l'IRA, mais je sais que ça a pu varier selon les périodes et selon les scissions, justement. Mais en tout cas, il y a... Par exemple, au bout d'un moment, l'IRA, c'est marrant parce qu'il y a quand même tout un vocabulaire lié au catholicisme, à la religion, mais par exemple, ils ont été excommuniés par le Vatican. Parce que c'était un peu trop abusé, quoi. Voilà. Donc, et puis, toute la mythologie, elle est quand même socialiste, quoi, on peut dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais on peut dire ça, ouais. Peut-être maintenant, on va écouter. Donc, c'est. Eh bien, vous allez voir. On va écouter le témoignage de Fiona Bunting. C'était la fille de Ronnie Bunting. Ronnie Bunting, c'était un activiste républicain socialiste. Tout d'abord, un membre de l'IRA officiel à Belfast. Il est devenu un des membres fondateurs de l'Irish National Liberation Army, l'INLA. Il a été tué chez lui, dans sa propre maison, par des loyalistes en 1980, avec son camarade de l'INLA, Noel Little. Fiona Bunting est née en 1973. My father was Ronnie Bunting. I have very, very clear, vivid memories of him. But I can't remember day-to-day life. I remember a lot of different incidents, and I remember what it felt like being with him. The house used to get raided a couple of times a week, so you'd wake up in the middle of the night and you'd just hear voices and lights on. I remember waking up one night and there were Brits in the bedroom, and they were at the bottom of my bed, searching the bed. I was talking to Mum about it recently and she said, yeah. I said to them, I'm not lifting the kids out of the bed. So I don't know what was more scary. I remember at that stage that I knew that they were the enemy. On the night he was killed, Mommy and Daddy were both in bed. And when he heard them coming up, he tried to block the door. They started shooting, and he was shot 7 to 9 times. After that, I used to get flashbacks. Occasionally, something would have reminded me and nightmares would start. It wouldn't be a rerun of that night, but loyalists would be chasing me. Or there would be bloody images, that kind of thing. It would be as if you were back in 1980. A smell could set it off, like burnt tires would bring you back to the times of the hunger strikes. If I close my eyes, I can visualize everything in the house just the way it was, very, very clearly. Donc cet extrait, il est issu d'un livre que j'ai acheté là-bas à Belfast qui s'appelle Children of the Revolution, The Lives of Sons and Daughters of Activists in Northern Ireland, donc les vies des fils et filles des activistes d'Irlande du Nord. Et, excusez-moi, en fait c'est un livre très intéressant parce qu'il relate des témoignages d'enfants des deux côtés, quoi, on va dire. Mais avec le point commun qu'ils ont des parents impliqués dans les groupes armés. Et donc là, le témoignage qu'on a entendu... Je ne vais pas vous le traduire mot à mot parce que c'est un petit peu long, puis je ne le ferai pas très bien. Mais elle raconte en fait donc que son père a été assassiné en 1980 chez lui donc par des militants loyalistes, quoi. Et qu'elle raconte la nuit de son assassinat. Et elle raconte aussi les images qu'elle a qui lui reviennent suite à cet assassinat, les espèces de flashbacks qu'elle a. où elle revoit la scène dans sa tête, quoi. Et tout le long du témoignage, alors j'ai pas pu tout dire parce qu'il est un peu long, mais elle explique à quel point elle peut comprendre à la fois l'engagement de son père, donc d'abord dans Lyra et ensuite dans Lianella, et en même temps comment elle lui en veut de pas avoir été là pour elle, parce qu'il est mort quand elle avait 7 ans. Et elle explique aussi, donc ça c'est ce qui revient tout le temps en fait dans les témoignages d'enfants dans ce livre, qui est assez intéressant, c'est la présence constante de la police, qui viennent en fait faire les fouilles, de ce qu'elle explique au début du témoignage, les fouilles de la maison. Et donc ce qu'elle dit là, c'est elle se réveille une fois, elle se rappelle une nuit où elle se réveille carrément avec, donc ils disent les Brits là-bas, donc les Anglais, dans sa chambre quoi, quasiment au pied de son lit, parce qu'ils sont en train de fouiller sa maison. Donc voilà, donc ce livre il est assez beau parce que ça montre bien comment les enfants ils peuvent souffrir dans un conflit en fait, et dans des situations qu'ils n'ont pas forcément choisies.
Lulip, Martine et les autres vous présentent la trilogie I comme international, culture de résistance dans les pays en I. Le 2 octobre, l'Inde, du féminisme dans une société de caste. Le 16 octobre, l'Irlande, du côté des indépendantistes. Le 27 novembre, l'Italie, ses chants populaires, révolutionnaires et féministes. I comme international, culture de résistance dans les pays en I. Une trilogie par Lily, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2.
Donc on est toujours sur Lilith, Martine et les autres, et on vous parle d'Irlande. Donc là, on a parlé du conflit en général, un peu de l'histoire de la colonisation et de la guerre dans l'Irlande du Nord. Et puis, on est une émission féministe, puis on n'a fait aucune référence à l'implication des femmes dans ce mouvement, c'est un peu bizarre. Donc on va écouter une copine qui nous parle justement du rôle des femmes dans le conflit.
Lyra, je crois, n'a jamais accepté de femmes dans ce... Il y a eu des groupes de femmes armées dans l'histoire irlandaise, y compris en Irlande du Sud. C'est-à-dire avant la séparation entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, avant 1920, il y a eu des groupes de femmes armées. Il y en a eu encore après. Elles ont investi le bureau de poste pendant le PAC 1916 à Dublin. Elles y sont allées avec d'autres groupes armés. Bon, ils ont bien essayé de les mettre au fourneau. Mais elles étaient armées, quand même, donc ils en ont eu besoin aussi sur les barricades. Et les femmes étaient hyper impliquées dans le conflit, mais... En fait, c'est une société qui est assez... qui est très genrée, chacun à sa place, quoi. Les femmes à la maison avec les gosses, et les hommes sur le terrain de la politique et tout ça. Mais du coup, le rôle des femmes, tant qu'elles restent dans leur rôle... est très reconnue. Et du coup, elles ont eu un vrai rôle aussi dans le conflit. Et on a considéré leur situation quand elles se retrouvaient seules avec leur gamin parce que leur mec était en tôle. Mais elles-mêmes, elles ont fait de la tôle. Enfin, elles-mêmes, elles ont fait la grève de la faim de 81, là, de Bobby Sands. Il y avait des femmes aussi dedans. Enfin, voilà, elles ont fait la grève de l'hygiène, elles aussi. Enfin, elles ont pris les armes, elles ont fait les guetteuses. Enfin, il y avait des actions... Elle faisait semblant de sortir la poubelle et puis elle tapait les couvercles de poubelle en métal sur la rue quand les flics arrivaient pour prévenir les gens qui étaient à l'action. Par exemple, c'était les teneuses de parapluies pendant les enterrements de soldats républicains. Comme c'est une armée secrète, il fallait pas qu'on voit qui était... en soldat de l'IRA ou pas. Donc au moment de se changer, quand ils passaient de soldat à civil... quelqu'un leur amenait leur... Ils se mettaient au milieu de la foule, et là, les femmes ouvraient les parapluies, et ils se changeaient sous les parapluies, et quand elles repliaient les parapluies, ils étaient en civil, et leurs vêtements militaires étaient loin. Ils étaient passés de main en main jusqu'à être planqués ailleurs. Par exemple, c'était les ouvreuses de parapluies. J'aime bien cette histoire, parce que je trouve que ça dénote une organisation qu'on serait bien foutu d'avoir aujourd'hui, je trouve. Elles ont vraiment participé au conflit. Après, elles y ont aussi... Et c'est ce que les républicains essaient de valoriser, en fait. Elles ont aussi participé à l'arrière, quoi. Mais ce qu'on... Enfin, je sais pas comment dire. À la fois, les républicains, pour beaucoup d'entre eux, auraient bien aimé qu'elles restent dans ce rôle-là, et pas forcément qu'elles prennent les armes et tout, à la fois, au moins, ce rôle de l'arrière était valorisé, quoi. Par exemple, c'est ce qu'on n'a pas fait en France sur la Première Guerre mondiale, par exemple, ou des trucs comme ça. Il a fallu attendre vachement longtemps pour reconnaître le rôle des femmes à l'arrière, quoi. Et en gros, là, voilà, elles étaient organisatrices aussi de tout ça, et soutien à tous les militants. Et c'est pour ça qu'en retour, il y avait des collectes. Les femmes... Les veuves étaient soutenues par toute la communauté. C'était impensable de laisser une veuve sur le carreau, quoi.
The night was dark, the battle
et les autres sur le 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. On parle toujours de l'Irlande et on en est arrivé à... En fait, j'ai interviewé une copine qui a habité en Irlande au début des années 2000 et elle raconte un peu comment c'était Belfast à ce moment-là. Donc on vous présente une petite photo de Belfast.
Bah, le moment où j'y étais, moi, c'était vraiment un moment entre deux, parce que c'était la fin des troupes. On a signé un accord qui a un peu signé la fin du conflit direct, on va dire. Et en même temps, ils n'étaient pas encore complètement reconstruits. C'est-à-dire que c'était quand même un traité très institutionnel et tout ça, et que tout n'était pas encore en place. Et notamment l'année où j'y étais, en fait, il a été suspendu, parce qu'il y a eu des affaires et tout ça. Et du coup, quand je suis arrivée, et ils étaient plus ou moins en paix, et un mois après, c'était fini, en fait. Ils étaient à nouveau... c'était plus vraiment un pays en guerre, mais ils n'étaient pas vraiment encore en paix, comme c'est aujourd'hui, quoi. Une paix, pas une paix sociale, hein, mais une paix militaire, on va dire. Donc du coup, quand je suis arrivée, il y avait encore... toutes les traces du conflit, puisqu'en fait le conflit lui-même était encore là, quoi. Enfin, d'ailleurs, je pense que les Irlandais diraient qu'il y est toujours. Pour moi, il y avait toutes les traces d'un pays en guerre sans en avoir les dangers, quoi. Donc il y avait au moins un hélicoptère stationnaire militaire en permanence au-dessus de la ville. À l'époque, il n'y en avait pas encore en France. Ça arrive maintenant. Alors, à chaque fois qu'il y a un hélicoptère flic au-dessus de la ville, ça me fait penser à. Ça me fait penser à Belfast, mais à l'époque ça arrivait pas encore, comme quoi on a vraiment progressé, hein, là-dedans. On en arrive à avoir des niveaux policiers à la même chose qu'un pays en guerre, mais bon. Alors après, Belfast, moi ce qui m'a surprise, c'est que c'est moche, et je pense qu'en fait on s'en rend pas compte en France, mais en France on a des belles villes en fait partout. Enfin, il n'y a pas beaucoup de villes qui n'ont plus du tout de centre historique, par exemple. Et Belfast n'a pas du tout de centre historique, enfin il y a. Il y a peut-être 4 bâtiments qui datent d'il y a plus de 50 ans, quoi. C'est assez impressionnant. Par ailleurs, c'est une ville de bord de mer. Alors moi, je m'attendais à entendre les mouettes et tout ça. Alors oui, on entend les mouettes qui sont un peu couvertes par le son de l'hélicoptère, mais voilà, il n'y a pas tellement cet aspect-là. C'est pas charmant comme ville, en fait, physiquement. Et après, il y a un gros quartier de centre-ville commerçant où il n'y a presque personne qui habite. Et qui est vraiment, alors là, pour le coup, pour le différencier d'un autre centre-ville commerçant, enfin, pour le différencier de la rue de l'Arrêt, ça va être compliqué, quoi. C'est vraiment le truc classique. Après, t'as le City Hall, la mairie, qui est un des rares bâtiments historiques. Et puis, un peu plus au sud, du coup, collé au centre-ville, t'as tout le quartier des universités. Et donc là, une vieille université, construite par je sais plus quelle reine anglaise. Avec plein de jolies petites maisons qui sont en fait des CTU. Et c'est pareil, c'est un quartier très aseptisé. Enfin, du moins, moi, au moment où j'y étais, c'était un quartier très aseptisé, quoi. Un quartier très universitaire. Et un peu plus au sud, encore pas mal de CTU. Et après, un quartier très bourgeois, pacifié aussi, quoi. Et après, tout autour, eh ben, ça se divise en quartiers d'appartenance politico, religieuse, nationaliste. Tout ça se mélange un peu. Donc on a à l'est de Belfast, grosso modo à l'est de Belfast, il y a les quartiers, où il y avait, au moins ça a peut-être changé, mais il y avait les quartiers protestants, avec au milieu un petit quartier catholique qui s'appelle Short Strand, qui était quelque part assiégé par les protestants et qui l'ont été réellement physiquement. Il y a eu vraiment des phénomènes de siège du quartier Short Strand, et qui est un des quartiers les plus pauvres de Belfast. Là, pour le coup, c'est vraiment des maisons hyper délabrées, historiquement, des gens qui n'avaient vraiment pas... Enfin, c'est vraiment un quartier qui est très, très difficile, et y compris Est Belfast, c'est aussi le quartier protestant pauvre. Donc c'est vraiment, je dirais, une des zones les plus difficiles. Après, il y a les quartiers Ouest, où il y a le quartier de Shankill, qui est un quartier protestant, et puis le gros quartier catholique qui a beaucoup fait parler de lui, qui est le Falls. Et là, le Falls a quand même eu beaucoup d'aide. Et du coup, moi, à la période où j'y étais, c'était plus du tout le quartier pauvre que ça a été il y a quelques temps. Enfin, si, c'était un quartier pauvre, mais pas aussi pauvre. Par exemple, Short Strand était beaucoup plus marquant de ce point de vue-là que le Falls. Sachant que du coup, bah, les deux quartiers étaient délimités à l'époque par un mur. Je sais pas s'il y est toujours, mais il y avait un mur en fait, avec des portes qui s'ouvraient de temps en temps, selon les périodes. Moi, quand j'y suis arrivée, elles étaient ouvertes en journée, les portes, et puis un mois après, elles ont été fermées pendant des mois. Après, je les ai plus vues ouvertes, je crois. Et le mur, je pense que c'était plus pour parer des attaques. Armée, enfin, parce qu'il y avait des bombes qui étaient lancer des grenades et tout ça, lancées par-dessus le mur sur les maisons à proximité, quoi. C'était deux quartiers très fortement politiques et gros, enfin des gros quartiers en fait. et qui était vraiment mitoyen. Donc voilà, le... bon, pour la petite histoire quand même, ce qui est drôle, c'est que ce mur, il s'appelle la Peace Line. Donc c'est quand même assez drôle parce que c'est tout l'inverse, quoi. Et autour du mur, il y avait une espèce de bande de no man's land, quoi. Il n'y avait plus personne qui habitait, les quelques maisons qui avaient été vides, et voilà. Et après, il y a North Belfast, où là, dans le nord, c'est un enchevêtrement, en fait, de rues catholiques ou protestantes, enfin, en tout cas, irlandaises ou unionistes, ou anglaises, enfin, républicaines ou unionistes, enfin, on peut trouver plein voilà, de délimitations. Alors après, ça se voit, en fait, ça se voit dans quel quartier on est. Parce que donc il y a cette ancienne pratique de murals, de peinture murale, comme il y a à Lyon, mais en beaucoup beaucoup plus politique, qui toutes représentent l'appartenance politique, en fait, beaucoup plus que religieuse d'ailleurs. Il y a très peu de murals religieux. C'est une appartenance politique à ce moment-là qui est démarquée par les murals. Dans les quartiers protestants, les trottoirs aussi sont souvent peints, parce qu'en fait, ils sont tout le temps peints au moment des parades unionistes, donc des parades paramilitaires. Là, ils repeignent les bords des trottoirs en bleu-blanc-rouge, qui sont pas les couleurs de la France, mais celles de l'Union Jack. Et puis après, il y a le nom des pubs, qui peuvent indiquer aussi dans quel quartier on est, donc que ça s'appelle les Celtics, ou bien le Saint, je sais pas quoi, ou bien la Couronne, ou bien le Pub Royal, ou des trucs comme ça. Ça donne beaucoup d'indications sur dans quel type de quartier on est. Ou bien si le pub est vert, par exemple, on sait d'entrée de jeu qu'on va être dans un quartier irlandais. Parce qu'un pub irlandais aurait jamais tenu dans un quartier protestant. Voilà, et puis après, moi je dirais même aussi qu'il y a l'accueil, en fait. Je sais pas, dans le Falls par exemple, je m'y suis toujours sentie hyper bien, hyper accueillie. Une fois, je me suis retrouvée en galère, mon vélo avait un problème de chaîne, enfin c'était vraiment compliqué à gérer, et il pleuvait des cordes, parce que c'est quand même en Irlande, et donc il pleuvait des cordes, et j'étais trempée, et j'étais peut-être à 3 km de chez moi, et je passe devant un centre culturel gaélique. Sur False Road, et puis là, sans que je demande rien, il y a quelqu'un qui me prend mon vélo, qui m'installe à une table avec un thé chaud et des gâteaux, et qui me demande si ça va quand même, ça va, c'est sûr, ça va. Et une demi-heure après, qui me dit ça y est, ton vélo est prêt. Disons que, en tant que Française, dans les quartiers irlandais, on est accueillis comme des soutiens, quoi, à leur cause. Alors que dans les quartiers protestants, on va plutôt être considérés comme des ennemis. D'une part, parce que les gouvernements français n'ont jamais montré un soutien démesuré à l'Irlande du Nord, il ne faut pas exagérer, mais ont jamais non plus montré un soutien au gouvernement anglais sur cette question-là. Que par ailleurs, on est un pays de tradition catholique, et que même si tu n'es pas religieux, là-bas, tu es considéré comme catholique. Il y a des Irlandais qui se disent, alors ils sont beaucoup sont religieux, mais il y en a qui sont pas religieux et qui se disent athées catholiques, par exemple. Donc moi là-bas j'étais athée catholique. Donc du coup quand on va dans un quartier protestant, bah, déjà on est moins bien accueilli. Moi je me suis retrouvée aller dans un pub protestant avec ma coloc italienne, et quand elle a demandé un café avec son accent italien, ils lui ont dit, on sert pas les catholiques ici. Et on a dû dégager, quoi. Bon, on venait d'arriver, hein, on n'avait pas encore compris comment ça se passait là-bas, on n'a plus jamais refait ça de notre vie. Mais voilà, une autre fois, je suis allée me promener dans East Belfast, donc dans des rues protestantes, et il y avait des murals, donc des peintures murales, là. Donc dans les quartiers protestants, elles symbolisent la plupart du temps des militaires, enfin des paramilitaires. Des unionistes, et une fois je prenais une photo avec le copain avec qui j'étais du mural, où c'était donc un paramilitaire, et en dessous c'était écrit souvenez-vous qu'on peut vous tuer, et il y a quelqu'un qui est passé en nous montrant la phrase, quoi, en insistant dessus, quoi. On avait bien compris le message, on n'est pas resté très longtemps. Et alors que dans les quartiers catholiques par exemple, les murals, ça va plus représenter leurs martyrs, pas leurs martyrs religieux, mais leurs martyrs de lutte. Voilà, ou des anonymes, ou des gens du quartier. Et où là, quand on se retrouve à prendre une photo d'un mural, il y a les femmes qui sont en train de balayer le pas de leur porte, qui vont venir nous voir pour nous expliquer qui a peint le mural, pourquoi, qui est représenté dessus, etc., qui vont nous amener au mural d'après en chaussons là, et qui vont nous guider dans tout le quartier comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que moi je me suis jamais sentie pareille dans un quartier catholique et dans un quartier protestant. Pour moi, il y avait vraiment une frontière très imperméable entre les quartiers catholiques et les quartiers protestants. Le seul endroit où les gens se croisaient, c'était dans le centre-ville ou à la fac. Mais il faut savoir que proportionnellement, il y a beaucoup moins de jeunes nord-irlandais qui vont à la fac qu'en France. Donc il y a plein de gens qui vont jamais à la fac, qui se croiseront pas là. Je veux dire, les jeunes nord-irlandais, ils vont dans des écoles doublement non mixtes. Non mixtes garçons-filles et non mixtes catholiques-protestants. Et ils se reconnaissent entre eux à la couleur de leur uniforme. Alors, je me souviens plus trop, je sais que... Il me semble que vert et gris, c'était les uniformes des écoles catholiques. Et puis, bref, du coup, quand ils finissent l'école, soit ils vont bosser, soit ils vont à la fac. Et là, effectivement, ils se croisaient un peu entre eux. Sauf que... Il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de ronds, et par exemple, ils habitaient encore chez leurs parents, pour ceux qui habitaient Belfast, et ils n'habitaient pas tellement en fait dans les CTU, moi j'habitais en CTU, et je pense qu'il y avait au moins la moitié de la population de la CTU qui était étrangère. Il y a eu des expériences d'écoles non mixtes, mixtes catholiques-protestants, et en fait, qui marchent, mais qui sont quand même globalement limitées aux populations bourgeoises, quoi. Et donc c'est très anecdotique. Voilà, ça change pas fondamentalement les rapports entre eux. Et après, y avait des tas de trucs à savoir qui sont compliqués à cerner pour des étrangers. Mais à Belfast, il y a ce qui s'appelle les black taxis, qui sont en fait des grosses voitures noires. Comme beaucoup de pays anglo-saxons, de ce que je comprends, ils circulent beaucoup en taxi. Notamment parce que... au bout d'un moment, les bus n'allaient plus dans les quartiers catholiques. Parce qu'en fait, comme les boulots étaient pris par les protestants, c'était des chauffeurs de bus protestants qui, du coup, n'allaient plus dans les quartiers catholiques, de peur de se faire casser la gueule, et parfois, à raison, ils se sont déjà fait casser la gueule. Je veux dire, c'était pas seulement des simagrées. Et du coup, les taxis sont beaucoup utilisés, et en fait, il y a les Irlandais avaient du mal à trouver du boulot, mais encore plus quand ils sortaient de tôle, et notamment quand ils sortaient de tôle pour des raisons politiques. Et du coup, se sont mis en place des espèces de compagnies de taxis qui étaient spécialement pour les quartiers catholiques où il n'y avait plus de bus, notamment pour le Falls. Et qui étaient donc des conducteurs des anciens prisonniers politiques. Et donc c'était des taxis collectifs, donc c'est-à-dire que tu montes à 6 ou 7 dedans parce que c'est des espèces de grosses voitures. Et puis, en gros, tu sais à peu près où le taxi va et puis tu lui demandes de t'arrêter en chemin... un peu comme un bus en fait, hein, mais voilà. Et en fait, tu peux pas arrêter un taxi comme ça à la main, enfin en tout cas à l'époque, et lui dire je vais dans le Falls, et il te répondra oui ou non. Enfin, ils seront pas agressifs avec toi vu que t'es étranger, mais en gros, on te dira ah non, moi je vais pas là-bas.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres, l'émission sur l'Irlande. Donc on vient d'entendre une copine qui a habité là-bas en 2003 qui nous racontait un peu Belfast, à quoi ça ressemblait en 2003. Et du coup, moi, j'y étais cet été, et c'est juste, je voulais un peu quand même confirmer ce qu'elle dit dans son témoignage, parce que notamment, à un moment donné, elle parle du mur entre les deux quartiers West Belfast, donc Shankill, qui est le quartier protestant, et Falls, qui est le quartier catholique. Et en fait, ce mur, il existe toujours, et effectivement, il s'appelle le mur de la paix, mais donc il y a de plus en plus de touristes qui vont le photographier, parce qu'il y a des beaux murals dessus. Mais par contre, c'est quand même un vrai mur qui est bien entretenu, quoi. Et bon, moi, j'étais choquée de voir qu'il y a quand même des grillages super hauts qui sont très neufs. Donc, ça veut dire que probablement, ils sont refaits régulièrement. Et il y a toujours des portes qui peuvent se fermer. Donc, la plupart du temps, là, ce que j'ai compris, elles sont ouvertes. Mais ça arrive encore qu'il y ait des émeutes et où, du coup, ils ferment les portes entre les deux quartiers.
Et c'est ça, les murals, physiquement, c'est sur des murs en particulier ou c'est sur des immeubles ou justement sur des murs de séparation?
Alors les murals, ça peut être de partout. En fait, il y en a vraiment à Derry, il y en a vraiment beaucoup dans le Bogside, donc le quartier catholique, et dans le Fontaine, qui est le quartier protestant proche du centre. Et à Belfast, pareil, dans les quartiers vraiment connus, quoi. Falls, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans Shankill aussi. Short Strand, j'y suis pas allée, donc j'ai pas vu, mais je pense qu'il y en a aussi, le quartier catholique de l'Est, là. Et par contre, il y a les murals qui sont sur le mur, vraiment, ils sont un peu particuliers. C'est des murals un peu plus symboliques, quoi, je dirais. Bah, notamment les grandes fresques, justement, soit plutôt à un peu... Qui rend hommage un peu à tous les leaders nationalistes indépendantistes. Donc, je sais pas, il y a une fresque où les leaders des luttes pour les droits, quoi. Par exemple, il y a une fresque avec Angela Davis, avec Martin Luther King, voilà. Ou bien bah, les fresques plutôt sur des militaires, des grands militaires, plutôt côté protestant, quoi. Ça, c'est sur le mur principal. Mais par contre, en fait, c'est une tradition, les murals, ils sont tout le temps renouvelés. Donc, en fait, on voit pas les mêmes. Selon l'époque où on y va. Ben merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Peut-être on a 2-3 infos à vous faire passer avant de se quitter.
Alors, je vais commencer d'abord par l'appel. Ce week-end sur Lyon, c'est un week-end autour des violences policières et de mémoire sur les crimes policiers. Notamment, ce soir, il y a une soirée à l'atelier qui est 91 rue Montesquieu avec différents collectifs Vérité et Justice et des personnes ou des collectifs qui suivent des familles qui luttent sur la mort d'un des proches, soit dû à la police, soit dû aux prisons, et qui expliquent aussi c'est quoi ce système policier qui est mis en place par l'État français. Et demain, il y a 2 appels à rassemblement, 1 à 8h au Minguette pour essayer de refaire la marche de l'égalité et du racisme qui avait commencé en octobre en 83, et à 18h place du Pont, une marche par rapport au massacre des Algériens le 17 octobre 61 dans la Seine à Paris. Et la marche qui va s'initier demain matin au Minguette, elle devrait finir normalement le 31 octobre à Paris, parce qu'il y a eu un appel notamment par Amel Bentoussi qui fait le site Urgence la police assassine depuis que son frère a été tué d'une balle dans le dos, dans le nord de la France, je voulais dire le nord de la France, je dis le sud. Et en gros, c'est aussi en mémoire ou en hommage ou en rappel des luttes par rapport à octobre 2005 où Ziad Ebouna était tué par la police et il y a eu le procès en juin. Ainsi, 20 ans plus tôt, il y avait la marche pour l'égalité et contre le racisme qui avait commencé à Marseille et qui avait terminé à Paris, et où des centaines et centaines de personnes avaient déboulé sur Paris. Et voilà, en gros, l'appel se termine comme ça. C'est pourquoi, comme il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, contre l'humiliation quotidienne, contre le mépris, contre l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie galopante, contre les crimes policiers, s'impose une nouvelle marche, la marche de la dignité. Notre réaction puissante, organisée, confiante est la seule façon d'enrayer notre écrasement collectif annoncé. C'est à cette grande marche de la dignité que nous vous convions le 31 octobre prochain, et un collectif qui s'appelle l'AMAFED, qui regroupe plein de femmes et de collectifs de femmes et assimilées qui ont signé cet appel. Vous pouvez trouver du coup cet appel sur Facebook, sur le site Urgence Notre Police Assassine. Et on va écouter un petit jingle que des...
Juste une petite précision, demain le départ de la marche au Minguette, c'est à Pyramide.
Et puis la semaine prochaine, vendredi prochain, 17-18h, si on n'est pas des cadeaux, et nous on revient le 30 octobre, avant Halloween.
Lulith, Martine et les autres vous présentent la trilogie I comme internationale.